Impact. Une émission au cœur du développement durable. Impact. C'est tous les mercredis sur Alger 3.
Mesdames et messieurs, bonjour. Pour vos services, comme pour vous servir, comme chaque mercredi, cette fois-ci, nous avons choisi d'installer notre studio mobile, celui de la chaîne 3, en pleine nature, au niveau de la steppe de Regaïa. Une steppe, c'est une station d'épuration, c'est celle qui permet de préserver l'environnement tout en traitant les eaux usées d'origine domestique. Nous sommes au cœur de la station. On va vous la décrire dans un moment, mais c'est juste pour vous dire que le temps est magnifique et que juste derrière la station de Regaïa, il y a le fameux, le célèbre lac de Raïa, classé zone d'importance internationale selon la convention de Ramsar, zone humide d'importance internationale. Et avec nous ce matin, et en attendant l'arrivée de monsieur Nasreddine Rakrouti, le directeur général de l'ONID, l'Office national de l'irrigation et du drainage, on va vous l'expliquer après, nous avons en notre compagnie notre hôte qui est Boussad Saïdi. Boussad Saïdi, qui est chef de centre de la STEP, la station d'épuration des eaux de Raïa, et des stations et des postes de relevage de tout Regaïa. Monsieur Boussad Saïdi, bonjour. Le citoyen que je suis, le réseau d'assainissement s'arrête au bord de ma maison, je tire la chasse, et puis je n'ai plus à me questionner où va cette eau usée. Comment elle fait pour demander domicile ou domicile de l'Algérien qui habite dans la région de la wilaya d'Alger, arrive par quel processus, par quel cheminement jusqu'à cette station d'épuration?
Donc l'acheminement des eaux usées vers une station d'épuration se fait quand même, ils font un chemin très très lent. Donc depuis le citoyen tire la chasse chez lui, donc l'eau usée va vers des collecteurs d'assainissement. C'est à partir de là qu'on fait le transport des eaux usées vers la STEP et bien sûr à travers 128 postes de relevage qui travaillent en H24.
Ça veut dire de chez moi, je tire la chasse. Il y a un réseau d'assainissement qui va de chaque cité, de chaque quartier, automatiquement vers une station de relevage et une station d'épuration.
Parfait.
Et il y en a trois, on va dire, dans la wilaya d'Alger. Celle-là où nous nous trouvons, la station d'épuration de Raïa, Berraqi, Ain Benyen.
Nous avons cinq stations d'épuration au niveau d'Alger qui sont gérées par notre entreprise CIAL.
Et donc, le réseau est un réseau qui va du domicile de tous les quartiers, de toutes les communes, les 50 communes de la wilaya d'Alger, vers une station d'épuration comme celle où nous nous trouvons aujourd'hui.
Bon, le réseau d'assainissement est découpé à plusieurs parties. Par exemple, nous ici, au niveau de la station d'épuration de Regaïa, On gère les eaux usées de la zone est de la wilaya d'Alger.
D'accord.
Donc on reçoit, comme j'ai dit tout à l'heure, on reçoit les eaux usées à partir des collecteurs et des postes de relevage. Donc nous avons 28 postes de relevage qui font refouler des eaux usées vers cette station. Donc une fois l'eau arrive à la station d'épuration, donc nous avons plusieurs étapes de traitement qu'on va parler.
Les postes de relevage, c'est pour permettre l'acheminement. C'est quoi? C'est des sortes de surpresseurs. Ce sont des pompes qui permettent d'acheminer des différents quartiers d'Alger, de l'est d'Alger. Là où nous nous trouvons, on rappelle qu'on est en direct à partir de la station d'épuration des eaux de Regaïa, de faire le relevage jusqu'à la station.
Donc les stations de relevage sont des petites stations dans des petites stations équipées du matériel, des pompes, des grandes pompes, enfin des pompes de submersibles, des groupes électrogènes, des
opérateurs. Les groupes électrogènes éviter
pour assurer le fonctionnement en H24 en cas de coupure électrique et pour éviter la surverse des eaux usées vers le milieu naturel, vers la mer, vers le lac de Régaillan, justement, le seul objectif de la station. Donc c'est pour éviter tous ces déversements vers le milieu naturel, c'est pour le préserver. Donc on assure le fonctionnement avec des groupes électrogènes en cas de coupure électrique.
Des groupes électrogènes qui sont, j'imagine, à démarrage automatique. Il y a coupure d'électricité. Quelques secondes après, le groupe électrogène se déclenche et évite le refoulement des eaux usées vers le milieu naturel. C'est bien ça.
Exactement, exactement. Donc nous, on évite le maximum le débordement et la surverse des eaux usées vers le milieu naturel.
Et par cette belle journée de printemps, vous pouvez déjà l'entendre, l'un des bassins de décantation. Et avec monsieur Boussat Saïdi, chef du centre de la STEP, station d'épuration et des postes de relevage de Régaïa, qui va nous expliquer les eaux usées quand elles arrivent par le collecteur dans cette immense station d'épuration qui a une superficie de
17 hectares.
17 hectares, c'est quand même énorme. Énorme. 17 hectares, beaucoup de verdure. Et sur ces 17 hectares, il y a un protocole, un processus d'assainissement. Lorsque les eaux usées arrivent au niveau de votre STEP, de votre station dont vous avez la charge, par où passe cette eau usée ou ces eaux usées et quelles sont les différentes étapes de traitement?
Donc après l'arrivée des eaux usées à la STEP par le bien des stations de refoulement, donc la première étape c'est qu'on fait des prélèvements à la tête de la station parce que nous avons un laboratoire d'analyse au niveau de la station.
Ici même.
Oui, c'est au niveau de la station, il y a un laboratoire d'analyse pour contrôler la qualité, parce qu'on contrôle pas uniquement la qualité de rejet, mais on contrôle aussi la qualité d'eau qui arrive à la station d'épuration.
Il y a un double contrôle.
Oui.
Vous contrôlez la qualité des eaux usées à l'entrée
de la station.
Et après tout le processus de traitement, et oui, on va en parler, à la sortie.
À la sortie de...
Mais pourquoi analyser la qualité des eaux usées à l'entrée d'une station d'épuration?
Parce que la station d'épuration, il a été réalisée pour traiter des eaux usées domestiques.
Et non industrielles.
Malheureusement, c'est qu'on reçoit des eaux industrielles que la station ne peut pas les traiter. Donc c'est pour cette raison qu'on fait des analyses. La qualité d'eau à l'entrée doit être répondre aux normes de décret présidentiel 09-2009.
Qui précise que la station d'épuration des eaux usées domestiques ne peut prendre en charge que, et on va le savoir tout à l'heure avec vous, que les eaux usées domestiques. Mais comme nous sommes très près, nous sommes à Régaïa, et à Régaïa, il y a une zone industrielle, la fameuse zone et la grande zone industrielle de Régaïa, et celle juste à côté, sa voisine de Louiba, les entreprises industrielles sont tentées de ne pas investir dans une station de pré-traitement comme le stipule la réglementation et vous envoient les eaux usées industrielles. Vous en recevez de temps en temps?
Oui, à plusieurs
reprises. Ça veut dire qu'il y en a assez régulièrement.
On a assez régulièrement. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel aux industriels de faire un pré-traitement, un traitement avant de rejeter leur eau industrielle vers le milieu, vers les collecteurs des eaux.
Et on rappelle que dès 1983, les entités industrielles, les entreprises sont tenues de mettre en place une station de pré-traitement au niveau de l'unité industrielle pour baisser le niveau des rejets et l'amener vers un rejet qualifié de domestique. C'est bien cela, monsieur Boussat.
Exactement. Parce que la station, au niveau de la station d'épuration de Régaïa, ou bien toutes les stations au niveau de la wilaya d'Alger, on fait le processus de traitement des eaux usées par un traitement biologique.
C'est-à-dire biologique. Ça veut dire qu'il y a du vivant dans les bassins de décantation.
Il y a des micro-organismes à l'intérieur des bassins qui font le traitement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter des eaux usées industrielles.
Parce que les eaux usées industrielles...
Leur traitement, c'est un traitement un peu complexe. Donc, c'est pour ça qu'il faut...
Et qui porte atteinte à la vie, qui détruit, qui, entre guillemets, assassine ces micro-organismes qui participent au traitement.
Et même les équipements, c'est pas que les micro-organismes, même aussi. Les équipements, parce qu'il y a des produits chimiques, etc., qui vont agresser nos ouvrages et nos équipements.
Et donc, c'est pour cela qu'en amont, juste à l'entrée de la station d'épuration, il y a un contrôle pour déterminer la qualité de cette eau. Et quand vous remarquez que c'est une eau chargée de rejets industriels, vous faites quoi, Monsieur Boussat Saïdi?
Bon, lorsqu'il s'agit des légers dépassements, donc on peut les traiter, on peut les prendre en charge. Mais lorsqu'on trouve que ces eaux dépassent des normes avec des valeurs importantes, donc on fait un bypass. Mais ce bypass, bien sûr, c'est à la demande pour une autorisation. On demande l'autorisation des autorités pour
le bypass va où? Vers le milieu naturel?
Malheureusement, vers le milieu naturel. Ce que nous évitons au maximum pour le bypass.
Alors, si nous comprenons bien, toute l'importance du laboratoire d'analyse de la qualité des eaux usées à l'entrée. À l'entrée de la station d'épuration, il y a un laboratoire. Il analyse la qualité des eaux usées. Si on voit qu'il y a un dépassement du fait d'eau usée industrielle toxique, lourdement chargée, pour prévenir les micro-organismes qui font l'épuration des eaux au niveau de la station où nous sommes en direct en ce moment, Regaïa, il y a un bypass. Ça veut dire que l'automate dirige ces eaux usées industrielles lourdement chargées vers le milieu naturel. Et il se trouve que ici, le milieu naturel, c'est le lac de Raya, qui est classé zone humide d'importance internationale. Ouais. Donc à un moment donné, il faut tirer le bâton et taper sur ces entreprises industrielles qui rejettent les eaux usées sans traitement préalable.
Parfait. Exactement.
Vous avez eu quoi comme grand danger par ces entreprises qui envoient les eaux usées industrielles lourdement chargées? Par exemple, quel type d'analyse vous avez fait qui a démontré quoi? Il y a quoi? Du mercure, du plomb, du zinc, des métaux lourds. Qu'est-ce qu'il y a comme toxicité dans ces eaux usées industrielles?
Lorsqu'on trouve le pH est élevé, donc il y a un risque sur l'agression de nos pompes, de différents équipements, et on trouve aussi des métaux lourds tels que le mercure. Et d'ailleurs le grand problème des beaucoup que nous avons c'est au niveau de la station, c'est des fois on trouve des métaux lourds dans les boues. C'est pour ça on peut pas les valoriser.
Les boues d'assainissement normalement, sans traitement, peuvent être utilisés comme fertilisant agricole.
Exactement.
Parce que c'est de la matière organique.
Soit pour l'agriculture, soit pour l'industrie aussi.
On peut les brûler dans les cimenteries à la place du gaz. Et en ce moment, on devrait peut-être généraliser cela au prix où est le mètre cube de gaz. Et justement, l'Algérie est courtisée ces derniers temps par d'importantes personnalités mondiales qui viennent pour essayer d'avoir un peu plus de gaz. Alors, on l'a dit, il y a un laboratoire, il y a un traitement juste à l'entrée de la station d'épuration de Raya. Ensuite, après le traitement, après la première étape, c'est l'analyse de la qualité des eaux. Deuxième étape.
Donc après, une fois qu'on a fait les analyses au niveau de laboratoire, donc nous avons cinq étapes de traitement. Donc
la première
cinq étapes. Donc la première étape c'est le traitement primaire. Le traitement primaire qui est décomposé en deux étapes. Donc le dégrillage. Donc on élimine
dégrillage.
Le dégrillage. Donc le dégrillage, c'est on élimine les déchets solides. Les déchets solides tels que les bouchons des bouteilles, du plastique, donc c'est l'élimination.
Vous trouvez pas mal de choses, si on peut s'arrêter, parce que lors d'une précédente émission avec les services de l'ONA, nous avait signalé le jour de l'Aïd et le lendemain un nombre anormalement élevé de peaux de mouton, l'Aïdora. que font les peaux de mouton à l'intérieur d'un réseau d'assainissement.
C'est pas que les peaux de mouton, on a repêché même des moutons au niveau des stations.
Des carcasses.
Oui, des cadavres, des moutons. Un mouton complet, un cadavre. Donc on a repêché des cadavres, des poulets, des déchets énormes qui ne sont pas justement conventionnés, qui ne sont pas conçus de le rejeter vers le réseau d'assainissement.
C'est vous dire toute l'importance de la première étape qui est le dégrillage, c'est enlever de manière mécanique
les déchets solides.
Les déchets solides. On le voit, la grille est relevée.
Oui, que vous voyez juste à côté.
On la voit, la grille est relevée, ça veut dire qu'elle a fait sa partie de travail. Elle fonctionne en relevant de l'arrivée des eaux usées tout ce qui est macro-déchets.
Déchets solides.
Les
déchets, tous les déchets qui dépassent les 2 cm, on élimine au niveau de dégrillage.
C'est comme un petit 2 cm.
Hein, ouais.
Donc c'est très 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 fin, ouais, comme dégrillage. Deuxième étape,
donc,
monsieur Bousset.
Une deuxième partie de la première étape, c'est le dessableur des huileurs. Celui
qu'on voit juste en face,
dessableur des huileurs.
Et on le voit, hein. Il y a comme une, on va pas citer la marque, mais comme une boisson basée sur l'orange, où on voit deux liquides qui sont légèrement différents, l'un étant plus dense que l'autre.
Voilà, donc c'est un dessableur des huileurs. Donc on fait l'élimination des sables, puisque le sable, c'est des éléments décomptables. Donc
d'accord,
on élimine les sables et les huiles se flottent. Donc il y a, comme vous voyez, il y a un pont racleur. On fait le raclage des graisses, et des huiles.
Et là, donc, on a terminé la deuxième étape de la première,
étape.
Le deuxième point de la première étape.
Très bien.
Et on va aller doucement vers la deuxième étape.
La deuxième étape, c'est la décantation primaire. La décantation primaire, donc après l'élimination des déchets dont on a parlé précédemment, donc la décantation primaire, on élimine des matières en suspension qui sont décantables.
D'accord. Qui se fait dans ce circulaire, grand
bassin, voilà, nous avons
qui a une profondeur de quand même 6 mètres.
Une profondeur de 6 mètres. Nous avons ici, au niveau de la station d'épuration, deux étapes de traitement primaire. Enfin,
de protocole de travail.
Oui. Nous avons le décompteur primaire secondaire qui est l'ancienne, c'est les mêmes décompteurs qu'on trouve au niveau de toutes les stations d'épuration. Et nous avons un système de traitement, la décantation primaire lamellaire, c'est la première expérience en Algérie dans...
Ah, première expérience, donc vous devez, monsieur Bousset, de nous l'expliquer. C'est la première expérience au niveau de stations d'épuration au niveau national qui fait avec un système lamellaire.
Lamellaire.
En quoi consiste ce système lamellaire?
La manière, c'est la même. Juste, c'est pour gagner de surface, c'est pour gagner de l'espace au lieu d'investir dans une grande assiette pour traiter 80 000 mètres cubes. Donc là, on a retraité l'assiette. Et on a gagné la surface de contact de traitement.
Ah d'accord, donc vous optimisez l'empreinte au sol dans cette station, qui fait quand même, on le rappelle à nos auditeurs, 17 hectares et qui traite par jour, qui est conçu pour traiter jusqu'à
152 000 mètres cubes par jour.
152 000 mètres cubes d'eau usée à traiter par jour.
Oui.
Alors, on a fini le traitement lamellaire et on passe... À quel niveau vous nous indiquez?
Donc on passe là, on voyait les grands bassins, c'est l'étape de traitement biologique.
Le traitement biologique. C'est-à-dire, c'est là où il y a les micro-organismes.
Les micro-organismes qui consomment la matière
organique. Qui s'alimentent avec
la matière organique. Bien sûr, en donnant de l'oxygène, parce que le micro-organisme, pour vivre dans un milieu, il faut de l'oxygène et de la nourriture. Donc la nourriture, c'est de la matière organique. Et nous, on fournit de l'oxygène à partir des grandes surpressions qu'on voit ici. Juste
à notre gauche, le rôle des surpresseurs, c'est
d'injecter de l'air à l'intérieur des bassins.
Pour aérer, produire un petit peu d'oxygène au bénéfice des bactéries.
Des bactéries.
Vous les ramenez d'où, ces bactéries? C'est-à-dire, vous les achetez, vous avez un fournisseur, vous êtes dans une entreprise, c'est CEAL qui s'occupe de vous fournir ces bactéries. Mais qui sont efficaces, ces bactéries?
Oui, c'est un traitement biologique à 100%. C'est la bactérie
à 100%.
D'ailleurs, lorsque on va passer à la sortie de la station pour voir la qualité d'eau qu'on rejette vers le milieu naturel, vous allez voir la différence entre l'arrivée et la sortie. Toute la matière organique a été consommée biologiquement par les matières, par les bactéries.
Alors là, au niveau de ces bassins de décantation où il y a, j'imagine, des millions de micro-organismes, des bactéries qui consomment la matière organique et où il y a une aération pour pouvoir survivre à ce milieu très hostile, mais qu'on essaye d'adoucir, l'étape qui vient juste après, c'est laquelle? À quel niveau? À partir de
donc,
là où nous
après, nous donc après le traitement biologique, donc on va passer à la décantation secondaire. La décantation secondaire, pratiquement, c'est la même que la décantation primaire. Donc, on récupère des boues, on récupère des boues secondaires et l'eau clarifiée. Parce que
elle est déjà claire par l'effet des bactéries.
Par l'effet, exactement. Donc, on rejette l'eau clarifiée vers une dernière étape. C'est un traitement poussé, c'est le traitement tertiaire.
D'accord.
Le traitement tertiaire, nous avons ici deux types. Donc, il y a une filtration à sable pour.
Ça veut dire que l'eau passe à travers un filtre à sable.
À travers des filtres à sable, puis on rejette l'eau. C'est la dernière étape. Puis on rejette l'eau vers le milieu naturel, qui est le lac de Regaïa. Mais comme il y a un projet de réutilisation. Un projet de réutilisation des eaux de cette eau épurée, bien sûr en collaboration avec le ministère des ressources en eau, l'ONID.
L'ONID en attend parce que bon, c'est un grand jour, il y a des personnalités qui viennent en Algérie, on l'a dit tout à l'heure, et on attend d'un moment à l'autre l'arrivée de Monsieur Nasreddine Arkerouki, qui est directeur général de l'ONID. L'ONID, c'est l'Office national pour l'irrigation et drainage. Et donc, une fois terminée cette épuration, on va y revenir, hein, il y a une sorte de jonction avec le réseau de l'ONIT pour aller aux besoins agricoles.
Ouais, pour
c'est quand même 60 000 mètres cubes jour.
Oui, actuellement, on est à 20 000 mètres cubes jour. Donc
sur une capacité de 60 000.
Oui, selon la demande de nos collègues de l'ONIT, donc on est prêt à
augmenter les débits.
Oui, nous, parce que la station actuellement, on arrive même à 70 000 mètres cubes jour, on le rejette vers le milieu naturel pour protéger le lac de Raya, qui est l'objectif de la
justement,
station.
Justement, si vous permettez, M. Boussiat, on va s'arrêter. Le choix du site, nous sommes à Raya, juste à côté, encore une fois, du lac Raya, qui est une zone humide classée d'importance internationale par la convention de Ramsar. On rappelle que Ramsar, c'est une ville en Iran, où a été décrétée cette convention pour protéger les zones humides. Un peuple grand et grandiose, nous saluons les Iraniens. Alors, ce lac classé a besoin d'être protégé. C'est pour cela que les pouvoirs publics ont installé
cette station
en amont du lac pour pouvoir protéger le lac de la Raya de l'agression, entre guillemets, des eaux usées.
Oui, nous, lorsqu'on fait le traitement, on a parlé tout à l'heure sur le laboratoire à l'entrée et à la sortie. Donc, pour faire un traitement, pour rejeter des eaux vers le milieu naturel, vers le lac de Regaïa, il y a des normes qui ont
de rejet dans le milieu naturel.
La norme 06141, le décret 06141. Donc, on est toujours
En dessous
de cette norme, donc pour préserver justement ce lac.
Mais le lac, le fait d'avoir la station d'épuration de Raya installée ici même, là où nous trouvons, permet de préserver le lac, parce que le lac de Raya, malheureusement, est agressé par d'autres sources. Très loin d'ici, il y a un ouet qui déverse les eaux usées directement.
Nous voyons le ouet juste à côté.
On le voit. Et le fait d'envoyer les rejets plutôt propre et épuré du lac permet d'atténuer
de diluer un peu, parce qu'actuellement on fait la dilution au lieu de traiter la totalité de lac donc il y a de Wad Raya qui rejette directement vers ce lac, mais heureusement il y a un méga projet lancé par la direction des ressources en eau, c'est une grande station de pompage qui va relever toutes les eaux usées de ce Wad vers la steppe pour le traitement.
Et pour le moment, c'est un Tiamba pour vous égal ou inégal? C'est-à-dire, vous avez le Wad qui rejette chaque jour des mètres cubes d'eau usée, fortement polluée, et la station d'épuration, la steppe de Regaïa, qui rejette aussi des mètres cubes d'eau, mais épurée. C'est quoi? C'est du 50-50? Vous envoyez plus d'eau épurée que n'envoie le Wad?
Bon, c'est la station qui rejette une grande quantité, si je me permets de dire, peut-être 80% ce sont des eaux épurées.
Et donc c'est cette station d'épuration qui finalement, en plus de pouvoir assurer l'épuration des eaux usées domestiques de toute la partie est d'Alger, fait sa fonction première en protégeant le lac de Raya, en réinjectant beaucoup d'eau épurée pour lui permettre de survivre en quelque sorte.
Si j'ai dit 80% des
alentours
opérées,
oui.
20% des eaux usées, donc quand même le lac, le lac il est juste à côté, on le voit d'ici, la qualité n'est pas vraiment polluée parce que
grâce à ces 80% chaque jour.
Oui, exactement.
Très bien. On voit aussi des tas de boues qui s'amoncellent et en discutant avec les salariés qui sont en nombre d'eux. Il y a combien de travailleurs au sein d'une station d'épuration?
Bon, entre les postes de relevage qu'on gère et la station d'épuration, je suis à 141 collaborateurs.
141
collaborateurs entre 4 ingénieurs, opérateurs, etc.
Et l'épuration des eaux usées au niveau de la station de Raya est parfois si fine, parce que vous rejetez tout ce qui est supérieur à 2 cm, les employés m'ont dit que quand on met de côté pour sécher les boues issues du process d'épuration, on voit de temps en temps des petites graines germer et donner des pieds de tomates et d'autres légumes. C'est le cas, vous le confirmez?
Oui,
parce
qu'après les différentes étapes de traitement, on récupère des boues. On récupère
boues d'assainissement.
Les boues d'assainissement. Et on a un système de traitement des boues. L'épaississement, la déshydratation par des filtres à bande ou des déshydratations par des centrifugeuses. Donc après le traitement des boues, c'est le séchage si vous voulez. Donc après le séchage, la déshydratation des boues, on les stocke. On les stocke, à un moment donné, tu trouves des tomates, tu trouves des épinards.
Ça veut dire, si vous permettez, monsieur Boussed, ça veut dire que quand le traitement, il va y revenir, quand le traitement se fait de manière biologique par des petites bactéries et qu'il n'y a pas d'apport de produits chimiques et qu'il vous évitez les rejets industriels, à partir des boues d'assainissement, la vie peut reprendre à travers des pieds de tomates et de carottes. Mais s'il y avait un autre procédé de traitement qui était chimique, ce ne serait pas possible.
Oui, bien sûr.
Donc, d'où l'utilité de continuer le traitement biologique.
Oui, exactement. Et surtout, parlant de la boue, c'est un produit, c'est parmi nos produits, c'est un produit qui est riche en matière organique. C'est un produit qui est riche en matière organique, donc il est préférable de réutiliser, enfin, de valoriser ce produit.
On peut en faire quoi ces boues d'assainissement?
Donc on peut faire pour l'agriculture, donc c'est pour comme une engrais.
D'accord.
Et aussi pour l'industrie, pour les cimenteries, pour d'ailleurs il y a des projets lancés par notre entreprise CIAL.
D'accord.
Pour valoriser cette boue. Donc c'est pour
Est-ce que cette boue est soumise aussi au même processus de contrôle de qualité que le sont les eaux usées et purées.
Oui, mais même nos boues, on fait des prélèvements pour les analyser, parce que nous avons aussi un laboratoire central qui est au niveau de la direction générale Cuba. Donc, on fait des analyses au niveau de la station et on envoie aussi des échantillons pour faire l'analyse au niveau du laboratoire central.
Alors, au niveau de laboratoire central, c'est ce qui vous permet de récupérer des quantités qui sont assez importantes. On a vu des tas. Et justement, on voit l'arrivée de Monsieur Nasreddin Rakiroki, qui est le directeur général de l'ONID. On rappelle que l'ONID, c'est l'Office national d'irrigation et de drainage. Monsieur Rakiroki, bonjour. Désolé de vous faire venir à vitesse grand V. L'Algérie accueille des invités de marque aujourd'hui, donc c'est tout à fait normal que la circulation est perturbée. Donc, on rappelle que nous sommes en direct de la station d'épuration de Raya, qui fait un travail magnifique. Et vous êtes venu vous greffer sur la station d'épuration de... Et vous êtes bien content de récupérer des eaux bien épurées pour servir l'agriculture, c'est cela. Oui, racontez-nous ce projet, oui, Monsieur Rakiroki. Oui.
Bonjour à vous, les spectateurs de la chaîne Tarwa. Tout d'abord, on doit faire une petite présentation de notre boîte.
L'Office,
c'est oui. L'Office national d'irrigation et de drainage sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique. Normalement, c'est une boîte qui est chargée de l'hydraulique agricole pour certaines parties de l'agriculture dans les grands périmètres, bien sûr, irrigués. Au-delà, la superficie dépasse les 1000 hectares.
2000.
Donc, en tout, on gère 43 périmètres à travers le champ national. Donc, touchant 33 wilayas, avec une superficie globale équipée dépasse les 280 000 hectares. Là, avec une superficie irrigable, c'est de l'ordre de 230 000 hectares. Donc, pour faire face au déficit hydrique enregistré suite au changement climatique et en exécution de la stratégie de pouvoir public, le ministère de l'Hydraulique a engagé un programme important de la réutilisation et de la réutilisation des eaux usées et épurées dans l'irrigation, donc l'irrigation des GPI bien sûr, qui constitue au raccordement des STEP. Donc l'ONID a une expérience dans l'exploitation de ce type de ressources non conventionnelles, à savoir le périmètre de Mleta à Oran, pour une superficie irrigable à partir de ce type de ressources.
Ça veut dire qu'Amleta, du côté d'Oran,
Amleta, voilà, c'est la wilaya d'Oran, à partir de
la station de
Kerma.
Del Kerma.
Oui. Donc la superficie sur ce périmètre est de 6000 hectares. Pour le périmètre aussi, on a une autre expérience depuis 2012, à périmètre Hnaya, à la wilaya de Tlemcen, pour une superficie irriguée de l'ordre de 900 hectares. Et une partie du périmètre Al-Habra à partir de la Staseb Mohammadiya pour irriguer une partie de 700 hectares sur un périmètre qui s'étend sur une superficie de 9000 hectares presque.
Si vous permettez, vous avez commencé par l'ouest du pays, parce que la problématique, elle est cruciale.
Oui.
C'est une partie du pays qui est la moins arrosée, qui dispose le moins de ressources en eau, d'où l'intérêt de réutiliser les eaux épurées pour permettre une bonne irrigation. Donc c'est pour ça qu'il y a ces... vous avez commencé par parler d'Oran et de Tlemcen. C'est là où on a le moins de ressources. Et donc l'apport des eaux épurées en provenance des steppes, des stations d'épuration, est pour vous quelque chose de salutaire.
Oui. Donc c'est certainement, parce que la région de l'Ouest, c'est la région la plus touchée aux conditions climatiques, aux changements, aux déficits hydriques. Dès le début... C'était uniquement la partie ouest, mais maintenant ça devient à l'échelle nationale, là où on va exploiter le maximum des steppes proches au périmètre qui est géré par l'ONID. Donc, le type de spéculation généralement pratiqué à l'intérieur du GPI en utilisant ce type de zone.
GPI, c'est grand périmètre irrigué.
C'est grand périmètre irrigué. Donc, le type de spéculation généralement pratiqué à l'intérieur du GPI. C'est les céréales et l'arboriculture. Donc, on ne peut pas faire d'autres types de cultures si on ne fait pas le traitement tertiaire. Donc, c'est avec le type de traitement qu'on a, on limite l'activité agricole.
Et ça, quelles que soient le, j'imagine qu'en travaillant avec la STEP de Raya, puisque vous venez d'installer un dispositif qui permet de, d'offrir à l'ONID jusqu'à 60 000 mètres cubes jour à partir de la station de Raya, j'imagine que la STEP de Raya peut vous fournir un bulletin de la qualité ou de la bonne qualité de ces eaux, Monsieur Boussed. C'est-à-dire à la sortie, une fois les, tout le protocole d'épuration de l'eau, vous pouvez donner un bulletin d'analyse de la qualité de l'eau. Et normalement, avec ce bulletin, vous pouvez choisir quel type de culture irriguer. C'est comme ça.
Oui, à chaque pompage, donc on fait un prélèvement en amont, même au niveau de bassin de, nos collègues
de l'ONID.
Donc on fait des prélèvements, on fait des analyses au niveau de laboratoire central et on voit le bulletin pour
très bien. Pour le service de l'ONID. Et pour vous, ONID, vous êtes, j'allais dire, content, satisfait de la qualité de ces eaux épurées? Ou sincèrement, est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire une autre étape et trouver le financement pour affiner l'épuration de cette eau et aller vers d'autres cultures agricoles dans le cadre de la sécurité alimentaire?
Donc, pour le ministère de l'Hydraulique a tracé une feuille de route sur cette thématique, sur la réutilisation des eaux usées et épurées. Donc, il y en a un programme à moyen terme et à court terme. Donc, il y en a pas mal de steps qui seront raccordés au GPI. Grand périmètre irrigué. On a 11 steps qui seront raccordés au statut avec le traitement tertiaire. Donc, avec ce type de traitement, on peut aller à tout type de culture à pratiquer à l'intérieur de leur parcelle.
Tout type de culture.
Pas uniquement l'arbre. À condition que le traitement soit tertiaire. Donc, c'est le maximum de traitement. Là, on peut avoir un eau
de bonne qualité. De bonne qualité agricole.
De très bonne qualité, même pour d'autres utilités.
Vous confirmez, vous faites le traitement tertiaire au niveau de la STAP de Raya?
Oui, actuellement, on fait de traitement tertiaire. C'est pas comme on a parlé tout à l'heure, par filtre à sable. Mais il y a un projet de réalisation d'un système de désinfection par ultraviolet.
Par ultraviolet, de la désinfection. Une fois la désinfection faite et avec cette capacité, rappelez-nous la capacité de la station d'épuration de Raya quotidienne, c'est...
Elle est à 152 000 mètres cubes jour.
Ça veut dire qu'à pleine capacité, l'ONID pourrait récupérer jusqu'à 152 000 mètres cubes jour pour la sécurité alimentaire. C'est une capacité maximale, même si vous ne récupérez que par partie pour affiner
une partie
votre...
pour l'instant.
Ça peut donner un second souffle, une seconde vie à cette partie de la Mitidja, M. Arturoki.
Donc l'ONID est considéré comme un client potentiel à l'échelle nationale pour cette exploitation, pour l'utilisation des eaux usées et épurées. Donc,
client potentiel, ça veut dire que vous êtes content.
Oui, on est très content parce qu'en réalité, comme à titre indicatif, l'année passée, on a pu irriguer que de 69 000 hectares sur 239 000 hectares. Donc
c'est trop peu,
c'est dû au manque ou à insuffisance d'eau conventionnelle disponible au niveau des barrages. Donc les barrages au débit, ils sont tous reliés par les barrages. Et comme il y a une interconnexion, stress hydrique et le déficit hydrique, donc on est obligé d'aller vers l'utilisation de ce type des eaux non conventionnelles. Et nous, on considère comme un client potentiel, on va rajeunir tous les exploitations agricoles. Donc récemment, M. le ministre a inauguré ce
ici même à Raya,
ce projet de raccordement de la STEP de Raya, avec le GPI de Mitidja Est.
Grand périmètre irrigué de Mitidja Est.
Qui est destiné pour irriguer 3 000 hectares.
Quand même, 3 000 hectares.
3 000 hectares, touchant les secteurs 7, 8 et 9.
C'est-à-dire géographique.
Il y en a 9 secteurs sur ce périmètre Mitidja Est avec une production journalière proche de 60 000 mètres cubes jour, soit une production annuelle de 21 millions de mètres cubes par an.
C'est-à-dire un petit barrage.
C'est l'équivalent, c'est 4 fois le volume qui est exploité l'année passée, qui est exploité à partir de ce type de zone.
Donc 4 fois plus.
On va multiplier par la réutilisation fois 4.
Et tout cela avec une garantie, parce que quand la météo marine est mauvaise, la station de dessalement s'arrête. quand les chaleurs sont trop élevées, on voit qu'il y a une hydroévaporation au niveau des barrages. On a même cité une fois le barrage de Bni Haroun où 300 000 mètres cubes peuvent s'évaporer en une journée. Par contre, l'apport d'une station d'épuration, c'est du tout bénef. Ça veut dire qu'il y a une capacité installée. Si M. Boussaid peut dire « je peux vous livrer 60 000 », c'est 60 000 mètres cubes jour sur 365 jours par an.
Oui, c'est l'équivalent de 21 millions.
C'est l'équivalent de 21 millions. Donc ça, oui. c'est une bonne garantie. Mmh. Il n'y a pas de météo défavorable. Il n'y a pas de risque de coupure d'électricité puisqu'ils ont des groupes électrogènes à démarrage automatique. Ils ont des postes de relevage. C'est bien. Vous êtes satisfait. C'est un bon client.
Oui, on est très
vous êtes
client.
Un bon client pour M. Boussaid.
Non, on va contribuer, bien sûr, à la production nationale et à la satisfaction de besoins nationaux, surtout.
Tout est subventionné en Algérie. Ouais. Le prix du mètre cube d'eau dessalée, qui a un prix de revient de plus de 200 dinars, le mètre cube est cédé aux citoyens à 6 dinars 30 seulement. C'est très subventionné. Est-ce que le prix de cession des eaux épurées vous arrange?
Oui, le prix pour l'instant, il est administré à 2 à 2,5 dinars pour le mètre cube, c'est pour l'eau d'irrigation. Donc,
vous êtes satisfait, sincèrement?
Notre office n'est pas pour faire de bénéfices. Bénéfice. On fait la gestion publique. Donc,
votre bénéfice?
Notre bénéfice, c'est améliorer, c'est augmenter la superficie agricole, c'est contribuer à l'économie nationale.
Très bien. Et, mis à part Raya, où il y a ce formidable potentiel, quand même 60 000 mètres cubes jour, pratiquement 22 millions de mètres cubes par an, vous avez multiplié par 4, quitte de ce genre de projet à l'échelle nationale, notamment dans les régions de l'ouest du pays, où la ressource hydrique se fait de plus en plus rare.
Comme j'avais dit tout à l'heure, qu'il y a un programme à court terme et à moyen terme. Donc, il y en a 11 plus 9, à peu près 20 steps qui seront raccordés, surtout vers le GPI. Donc, on va assurer l'irrigation de superficies en plus qui a été irriguée en 2025. Donc, ce seront d'autres superficies irriguées.
Il y a actuellement combien d'hectares irrigués au niveau national par le système ONID?
Par le système ONID, on a pu faire irriguer l'année passée 69 000 hectares, mais à l'intérieur du GPI, il y en a 150 000 hectares qui étaient exploités. Donc il y a d'autres ressources qui sont mobilisées et utilisées par les agriculteurs, comme les forages surtout. Et on a pas mal de forages à l'intérieur des grands périmètres, comme des ressources individuelles. Donc, l'agriculteur, oui. S'il n'avait pas l'eau à partir de barrage, donc par le biais de l'ONID, il va utiliser son bien, c'est-à-dire le forage.
Et cette méthode d'avoir à justement substituer les forages par de l'eau épurée permet de préserver les nappes phréatiques et les forages.
Oui, exactement. C'est la stratégie d'État pour laisser les eaux conventionnelles là au pays surtout.
Surtout pour l'alimentation en eau potable. Oui. Peut-être quelque chose sur, je ne sais pas si c'est du ressort de... Parce que là, on est au niveau d'une station qui est gérée par Céal. C'est une station d'épuration, mais il y a des stations de lagunage. Est-ce que vous pensez que les stations de lagunage peuvent apporter un plus à l'ONID en termes d'irrigation? C'est lui le spécialiste de l'irrigation. Le lagunage, ce n'est pas fin, mais il y a un certain nombre, je pense que c'est dans les 240 stations d'épuration au niveau national. Si on arrive à raccorder chaque année des stations périmètres agricoles, vous avez un plan de développement pour augmenter les périmètres, les grands périmètres irrigués et aller vers une plus grande production?
Pour l'instant, on n'a pas, au niveau des périmètres existants, on ne peut pas faire d'autres extensions, mais au-delà de ça, on est en train de le faire. On fait des études de réaménagement de nouveaux périmètres en prenant aussi en considération leur position par rapport aux existences des steppes.
Justement.
À travers l'échelle nationale.
D'accord. Qui est l'arbitre? C'est-à-dire, vous avez une station d'épuration et vous, c'est l'ONID.
Oui.
L'ONID, c'est l'Office national d'irrigation et de drainage. Oui. La station d'épuration procède à l'épuration des eaux usées. Ensuite, elle ne sait pas parfois quoi en faire. Elle est lâche dans un milieu naturel, vous, vous en avez besoin. Qui va dire, cette année, on va brancher des stations d'épuration de ces wilayas pour permettre de donner de l'eau, pour mettre à l'ONID, bien sûr, à vous, de donner de l'eau au grand périmètre irrigué. Qui fait cet arbitrage?
Donc ça, c'est parce qu'avant de décider de raccorder tel ou tel GPI avec USTEP, on doit prendre plusieurs paramètres, surtout distance. La distance. C'est-à-dire l'agriculture en Algérie, elle est partagée en deux. Au niveau du ministère de l'hydraulique, on gère que les périmètres, grands périmètres, là où il faut un gestionnaire des ouvrages collectifs. Là, c'est la gestion collective. Donc, c'est l'individu, pas l'agriculteur, individuellement, il ne peut pas assurer cette gestion. Donc, l'État intervient pour gérer ce type de périmètre. Mais il y en a d'autres types de cultures. On s'appelle le PMH, le petit et moyen hydraulique. C'est les petits agriculteurs. Si la STEP elle est proche ou un PMH, donc seront bénéficiés directement. Sinon, il y en a même les potentiels investisseurs, ils ont aussi le droit d'être bénéficiés de ce STEP.
Très bien. Dans les grands projets structurants, on parle souvent du projet Baladna avec un opérateur qatari qui va faire trois fermes. L'une pour le fourrage, la deuxième pour l'élevage, on parle de plus de 200 000 vaches, la troisième pour la poudre de lait. Il y a d'autres partenaires italiens du côté de Temimoun pour faire de la céréaliculture et tout. Est-ce que vous êtes associé dans ces décisions pour pouvoir irriguer ces grands GPI, ces grands périmètres irrigués?
Oui, le secteur de l'hydraulique, il est associé, oui.
Il est associé.
Il est associé. Le secteur de l'hydraulique. Mais en tant qu'ONID, on n'a pas...
Pour le moment.
On n'a aucun lien avec ces investissements. Oui.
Pour le moment, votre objectif premier, c'est de récupérer, multiplier notre, par 4, notre, par 10...
Notre objectif dans ce cadre de programme, c'est résorber le déficit hydrique constaté à l'intérieur des GPI et augmenter la production et les superficies agricoles cultivées.
Très bien. Votre laboratoire... Très sincèrement, il faut affiner le débat pour arriver à tout type de culture. En Algérie, on a l'habitude de voir une spécialisation dans chaque région. Si vous allez sur les hauteurs de Skikda, vous allez trouver qu'il y a des petites exploitations qui font dans la culture de la fraise et ainsi de suite. Du côté de Mliana, c'est les cerises et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a qui vous accompagne en tant que station d'épuration pour pouvoir arriver à un meilleur traitement, affiner le traitement et répondre à toutes les demandes des clients qui sont irrigués par l'ONID? Comment arriver à dépasser cette... Tout le monde est content d'avoir de l'eau, mais la qualité de l'eau, pour tout le monde, ce n'est pas toujours évident. Et qui doit payer? Qui doit payer ce surplus? Si la STEP de Regaïa a besoin d'un budget pour avoir une eau de meilleure qualité, qui doit payer ce surplus selon vous? Il faut créer un fonds et il faut avec ce cachet.
C'est l'une des missions de CIAL ici au niveau de l'Algérie. C'est d'assurer la quantité et la qualité d'eau à distribuer l'ONID. On doit avoir
une eau
conventionnelle pour être utilisée dans l'agriculture.
Ça veut dire que vous, à partir du moment où vous payez un tarif administré, une eau.
C'est l'agriculteur qui paye l'ONID, l'État. Oui. C'est pas nous qu'on paye les CIA.
Ah, il paye directement. Oui. Il paye qui, l'agriculteur?
Il paye l'ONID.
Et l'ONID.
Après qu'il fait une souscription annuelle, qu'il veut exprimer sur son besoin annuel et sur les cultures qui seront pratiquées, il signe une convention avec l'ONID. Et puis on fait la distribution selon le coût administré.
Et l'ONID paye CIAL.
Non, on ne paye pas le CIAL parce qu'on travaille dans une seule boîte. Donc
c'est
la
stratégie.
C'est un producteur d'eau traitée.
Et donc l'ONID vit avec ce que lui paye le FLEH, mais l'ONID ne paye pas CIAL.
Mais la valeur réelle ne représente que l'un quart de la valeur de distribution. Ce n'est pas la valeur de traitement.
J'imagine que pour pouvoir, c'est bien l'ONID qui était derrière ce projet. Vous êtes venu, vous avez toqué à la porte de M. Boussed, il a été gentil, il vous a accueilli. Vous avez installé un dispositif pour aller jusqu'à irriguer des périmètres agricoles du côté de l'Raya. du côté de Boumerdès.
On est au milieu du périmètre. Là.
Vous êtes au milieu du périmètre.
On est au milieu du périmètre.
Et donc, les Fellah aux environs sont...
Ils sont très contents.
Ils sont très contents.
Ils sont très contents. On a programmé aussi des journées de sensibilisation avec les agriculteurs parce que ça fait des années qu'ils ne sont pas pratiqués leur culture.
Ça fait, est-ce qu'on peut s'arrêter une minute? Il n'en reste pas beaucoup. Je vais demander au réalisateur 5 minutes. Est-ce qu'on peut s'arrêter une minute? Les agriculteurs, les fellahines du côté de Regaïa, ça fait des années qu'ils n'ont pas pratiqué leur culture.
Ils ne sont pas, si, ils sont pratiqués, mais avec déficit.
Parce qu'il n'y avait pas assez de ressources.
Et ça, il n'y avait pas, oui.
Et donc, vous avez frappé à la porte de M. Boussed, et au jour d'aujourd'hui, il peut vous offrir 60 000 mètres cubes pour la joie des agriculteurs. Ils sont contents ou pas de la qualité?
Si, les agriculteurs sont très contents, je vous ai dit.
Et,
mais on n'a pas frappé la porte je sais, seulement. Oui. On a sauvé aussi l'environnement, parce que l'eau avant, ça se rejette dans le lac de Regaïa.
Dans le lac qui est la saison humide internationale.
Donc il n'y a pas que l'impact économique, il y a d'autres impacts aussi.
C'est
environnemental,
un double impact.
Oui. Donc l'ONID, en quelque sorte, on a sauvé l'environnement.
Il a tiré sa carquette de Monsieur Vert. Hein.
Pour utiliser ses eaux à l'agriculteur.
C'est un bénéfice double.
Sachant qu'il y en a 170 agriculteurs qui seront bénéficiés directement en parlant
170.
Pas. 170. 170 en parlant pas au poste de travaux temporaires.
Ça, c'est avec un premier, c'est quoi? C'est 10 000, 20 000 mètres cubes jour pour le moment?
Non, les équipements qui sont installés peuvent véhiculer 60 000 mètres cubes jour.
Uniquement là, à Regaïa.
Ça dépend le besoin qui sera exprimé en aval là, par les agriculteurs. Si on a besoin de 20 000, on ne peut pas donner 60 000. On peut
bien
pas
sûr. Jeter, pas... Bien sûr. Et ça veut dire que vous avez inversé en toqué à votre porte cette fois-ci. Celle de l'ONID à Théoulnalma, vous nous donnez l'eau, et aujourd'hui, vous avez un stock avec l'aide de la CEAL Raya, vous pouvez répondre à 3 fois plus. C'est-à-dire, il y a une demande de 20 000, mais vous pouvez aller jusqu'à 60 000. Donc, vous pouvez satisfaire, pour le moment, l'ensemble des demandeurs au niveau de cette partie de la Mitidja, M. Al-Kharoufi.
Même avec 60 000, on ne peut pas irriguer la totalité du périmètre. On a dit qu'on va irriguer le secteur numéro 7, 8 et 9. Si vraiment le 60 000 fait l'affaire pour la totalité du périmètre qui avoisine le 14 000 hectares, parce que le mitigé 1, c'est 14 000 hectares.
D'accord.
Donc, comme le débit qui est produit par la STEP, il est limité à 60 000, on a acheminé ces eaux au secteur numéro 6, 7, 8 et 9.
Cette donc étape est limitée à 60 000, vous pouvez l'augmenter.
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas satisfait le besoin global. En attendant que l'augmentation de la production à 150 000, là, on peut réfléchir aussi pour faire bénéficier tous les agriculteurs à l'intérieur du GPI.
Ça, c'est pour la partie GPI pour grand périmètre irrigué. Ça, c'est pour la Mitidja Est. Du côté ouest, est-ce qu'il y a le même dispositif au niveau de la station d'épuration de Barraki? Qui est pratiquement la plus grande au niveau national.
Si. Et on a un projet en cours de concrétisation qui est chapeauté par l'ONA, l'Office national d'assainissement, pour raccorder la steppe de Regaïa, la steppe de Barraki avec le périmètre de Mtija Ouest.
Et c'est quelque chose de magnifique. Je vous remercie à l'instant, M. Nasreddin Arkiroki, directeur général de l'ONID, l'Office national d'irrigation et de drainage. Juste avant vous, il y avait Boussed Saïdi, chef du centre de la STEP, station d'épuration et des postes de relevage de Regaïa, qui nous a fait visiter sa station d'épuration qui s'étale sur 17 hectares et qui permet d'épurer 152 000 mètres cubes par jour. Cette émission, donc, vous a été diffusée à partir de la station de d'épuration de Regaïa, un super beau site. On invite les établissements scolaires à venir avec les enfants juste après la reprise pour visiter. Cela s'est fait grâce à notre maestro Abdelrani Boudelias, le réalisateur, et à l'équipe technique composée de Mohamed Sellami et des techniciens d'Algérie Télécom. Algérie Télécom, comme à chaque fois, nous accompagne pour faire des directs. Merci. On se retrouvera mercredi prochain, même heure, même station.
بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حوير وبغيت روح لها صامر ضاير هو الفك كيف سهل وفريقك أنا قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك أنا قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغالية عالية باليدين أرها في قلبي قد يوها هو الفك كيف سهل وفريقك ما يقدر تعنوه هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدر تعنوه هو اللي فوق كيف سهل وفرقك اللي قدرت عنه